Bonjour tout le monde, bonjour. Spectaculaire commence aujourd'hui, mercredi 9 octobre 2013. Il est, quelle heure est-il? 14h, un peu plus de 14h pile, 14h03 je crois à peu près. Christophe Rollin au micro pour cette émission sur Radio Canu, le 102.2 de la bande FM à Lyon. Ou bien vous pouvez nous écouter également sur internet, radiocanu.org. Nous avons aujourd'hui un invité, je dis nous, ce n'est pas un nous de majesté, je parle de Gérald. J'ai coupé les micros, personne ne parle, il n'y a que moi qui parle pour l'instant. Je suis avec Gérald, Gérald est avec moi plutôt. Et donc nous recevons Olivier Borle qui parlera dans quelques instants. De quoi nous parlera-t-il? Eh bien il nous parlera de lui, ce bel acteur qu'il est dans la troupe du TNP, de spectacle passé, et puis surtout du spectacle qui arrive la semaine prochaine, du 16 au 25 octobre, reprise d'une saison au Congo. Ce sera le cœur de notre entretien avec Olivier. Et puis ensuite, nous parlerons de la fin de saison au TNP, et nous parlerons aussi d'un spectacle à venir au mois de février, tout à fait lié à Aimé Césaire, l'auteur d'une saison au Congo. Une saison au Congo, et bien puisque ce sera un peu la matière principale de cette émission d'aujourd'hui, commençons avec ce tube des années 60, Indépendance Tcha-Tcha-Tcha. Merci beaucoup à Gérald d'avoir trouvé cet enregistrement, c'est très costaud. On commence donc avec cette chanson et puis on continue ensuite avec Olivier Borle, spectaculaire, Radio Canu. Restez à l'écoute. C'était notre premier instant musical. Nous écoutions Indépendance Tcha-Tcha-Tcha. Gérald, as-tu un commentaire à faire sur cette...
Rapide. Bonjour, rapide. Chers auditeurs. Nous écoutions donc Indépendance Tcha-Tcha. Donc, l'actuel RDC, c'était le Zaïre à l'époque. Interprété par Joseph Kabasele et l'African Jazz. Une chanson, un tube historique qui a traversé les continents de 1960. Et si j'en crois cette petite compilation les chansons des années d'indépendance, donc 30 ans de musique africaine, 1960-1990, publié par Africa numéro 1. Monsieur Tsamala Kabasele Joseph Anastase, de son prénom que les Quinois appelaient Kale Jeff, était l'un des grands auteurs de la poésie chantée, à la voix mélancolique et au style imagé. Il savait tailler en pièces les amours célèbres, rechercher la dignité perdue, faire appel à la personnalité africaine pour un départ certain vers le progrès, comme dans Indépendance Tcha-Tcha, enveloppé avec maestria de guitare par Cassandra Nicolas, connu sous le prénom de Nico, surnommé aussi Docteur.
Docteur, très bien, on aurait cru une soutenance de doctorat.
Donc on ne connaît pas le sens des paroles, c'est tout ce qu'on peut dire sur ce morceau mythique.
Ce qu'on peut également dire, c'est que nous sommes d'une goujaterie folle, d'un manque de politesse. Nous recevons Olivier Borle. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Vous êtes acteur dans cette pièce, Une saison au Congo, qui est reprise la semaine prochaine, mercredi prochain, du 16 jusqu'à, je crois que c'est un samedi ou un dimanche, le 25 octobre, ce sera la semaine d'après.
Ouais.
Et donc vous allez nous parler de ce spectacle tout à l'heure, mais nous nous proposions peut-être de parler de vous d'abord. Qui êtes-vous, Olivier Borle? Acteur de la troupe du TNP, assistant à la mise en scène, j'ai cru comprendre, pour un spectacle passé.
Oui, parfois, oui. Écoutez, moi je suis acteur, je suis d'origine parisienne et je suis venu à Lyon en 2000 pour suivre les cours de l'ENSAT, qui est une des trois écoles nationales de théâtre en France. Et j'ai quitté Paris pour venir à l'école et j'ai eu la chance à ce moment-là d'y rencontrer Christian Scaretti qui venait de devenir directeur du TNP à Villeurbanne. Il succédait à l'illustre Roger Planchon. Et Christian a toujours imaginé le théâtre comme une chose collective avec entouré d'acteurs. Voilà, il n'a eu de cesse tout au long de son parcours, que ce soit à la Comédie de Reims quand il la dirigeait ou au TNP, de s'entourer d'acteurs parce qu'il préfère travailler comme ça d'une part, et d'autre part il trouve que le déséquilibre entre acteurs permanents et acteurs intermittents en France est trop grand, qu'il n'y a pas assez de troupes permanentes, alors que si l'intermittence a des vertus, la permanence en a également ô combien nombreuses. Je peux en témoigner puisque du coup ça fait 10 ans que je suis dans la troupe.
10 ans c'est un peu plus, c'est plus ancien que le mandat de Scaretti, non? Ou c'est
Non.
Il a commencé en 2002,
2003. Il a commencé, il a commencé en 2002. Dans ces eaux-là, moi, j'ai rejoint la troupe en 2003-2004. J'étais un des premiers, arrivants de cette troupe. Et donc depuis 10 ans, je fais partie de cette troupe. Au TNP, voilà.
Que d'aventure alors, par-dessus bord, je suppose, c'est ça? Enfin, non, je ne suppose pas, par-dessus bord, oui, nous avons parlé tout à l'heure hors antenne, spectacle énorme qui commence à dater un peu, enfin, dater, c'était 2007. Hein,
2007, genre, ouais.
Ça fait 6 ans.
Ouais, il y a eu beaucoup on a fait beaucoup de spectacles avec Christian au TNP, et la troupe notamment a permis d'avoir des spectacles, une programmation à géométrie variable avec des spectacles lourds, imposants, comme effectivement par-dessus bord que vous citiez, mais on peut dire aussi l'opéra de Katsu, Coriolan, Le siècle d'or, qui étaient trois spectacles autour du siècle d'or, et puis là une saison au Congo, donc qu'on a créé l'année dernière, Ruy Blas également, sur lequel effectivement j'étais assistant à la mise en scène aussi. Et la troupe permet aussi d'avoir des spectacles beaucoup plus légers avec juste un ou deux acteurs. Je pense à la Jeanne de Delteil ou le Laboureur de Bohème qui est en ce moment en tournée dans le Rhône, qui était à l'Arbrel. Voilà, qui sont des spectacles beaucoup plus légers et qui peuvent se répéter pendant qu'on joue les gros, etc. Puis évidemment, la troupe permet aussi de multiples activités, d'ateliers, d'interventions en milieu scolaire, en milieu associatif, et
en milieu radiophonique aussi.
En milieu radiophonique aussi, voilà, ma présence en atteste. Et voilà.
Alors l'idée de troupe, c'est l'idée de les acteurs se connaissent, c'est un travail plus profond, plus rapide, plus efficace.
Alors exactement, ça permet à moyen terme d'avoir une plus grande efficacité de travail. On se connaît très bien, on va très vite. Alors c'est aussi le piège, c'est-à-dire que le piège de la troupe, c'est d'arriver à se renouveler, à s'enrichir, à pas s'asphyxier. Et pour ça, on a eu Chacun avait ses petites solutions personnelles. Moi, j'ai eu besoin de faire d'autres choses à côté, d'avoir mon petit jardin secret entre guillemets d'acteurs, de travailler avec d'autres équipes quand mon emploi du temps le permettait. Mais ce qui nous a beaucoup aidé, c'était quand même qu'on était dans une grande maison, le TNP, avec des moyens conséquents qui ont permis. Christian, lui, met toujours l'essentiel de son budget dans le salaire. C'est-à-dire que souvent, le décor, c'est les acteurs. Donc, il y a toujours beaucoup d'acteurs. On croise toujours énormément de gens. Je sais pas quel est le pourcentage, mais pour m'être intéressé un peu au budget de production, la masse salariale est toujours énorme. Et c'est toujours au détriment du décor, etc. Parce qu'il estime que ces maisons-là, elles ont un devoir d'emploi, un devoir d'engagement, et que si on fait pas des spectacles avec 25-30 acteurs au TNP, où les fera-t-on dans le théâtre subventionné, c'est ces maisons-là qui ont ce devoir-là d'emploi, enfin, selon lui.
C'est un choix éthique, politique.
Un choix éthique, politique et esthétique aussi, parce qu'effectivement, Christophe et vous, qui avez sans doute vu une saison au Congo, vous voyez qu'au Salut, la distribution excède le cadre, on ne peut pas se mettre en ligne, on est obligé de faire un demi-cercle. Et Christian tient beaucoup à ce demi-cercle parce que d'une certaine manière, il complète la salle, en fait. C'est-à-dire qu'on se retrouve tous en cercle, la salle et la distribution. Et c'est vrai que c'est une chose assez belle, je trouve, de penser que de remettre du cercle dans le théâtre, comme il l'était à l'origine. Hein, les premiers théâtres en Grèce étaient circulaires. Et, bon, bref, hein, tout ça, c'est de la politique.
Sans que cela nuise pour autant, d'ailleurs, au spectacle lui-même et à la qualité des lumières, du décor et de la.
Non, bien sûr, c'est une autre façon de travailler. Donc du coup, c'est vrai que cette présence conséquente d'acteurs qui venaient de l'extérieur, là, carrément, sur une saison au Congo, des acteurs qui viennent des quatre coins du monde, plus particulièrement d'Afrique, ça a toujours été pour nous, acteurs de la troupe, une source d'enrichissement incroyable et des bouffées d'oxygène forte, quoi. Donc c'est aussi pour ça que moi, au bout de 10 ans dans la troupe, je ne me sens absolument pas... ni lassé, ni ennuyé, ni même lyophilisé par une pensée qui se serait installée et qui se regarderait le nombril. Non, je crois pas, parce qu'on a toujours été percuté par des animaux extérieurs, que ce soit des acteurs parisiens.
Je suis en train de me dire, nous avons nommé tout à l'heure différentes pièces, peut-être avons-nous oublié les Molières, est-ce que nous en avons parlé? Et donc là, pour le coup, les Molières, c'est un pur spectacle de troupes. Ce ne sont que des acteurs. Parce qu'à côté, je voulais éventuellement nommer Philoctète, par exemple. Oui. On parlait de Coriolan, ouais, avec ces deux acteurs extérieurs qui sont quand même Vladimir Yordanov pour Coriolan et puis pour Philoctète.
Laurent Terzieff.
Immense acteur. Laurent Terzieff décédé il y a peu, hein, un an et demi, 2 ans. Je ne sais plus.
Je ne saurais plus exactement. Qu'il est décédé à la suite du spectacle.
Ces animaux, ces personnes extérieures, ces personnalités qui sont venues peut-être nourrir vos travaux. Quelle différence pourriez-vous faire de manière générale pour ces spectacles en particulier, puis peut-être pour d'autres, entre donc ces Molières, Marathon aussi, sept pièces qui ont été données déjà en intégrale,
oui,
je crois, sur des samedis dimanches.
Ouais.
Et puis à côté, Philoctète ou Coriolan, des pièces autour, disons, c'est peut-être pas complètement la chose, mais un petit peu autour de cet acteur, cet acteur extérieur, Vladimir Yordanov ou Laurent Terzieff.
Ça a toujours été un savant mélange et puis un équilibre à trouver. Disons que, précisément, l'année de Philoctète a été tout à fait emblématique de la saison de Philoctète, parce qu'on avait cette création qui s'est jouée à l'Odéon et à Villeurbanne et un peu en tournée où nous avions.
Qui étiez-vous, Ulysse, non,
J'étais un membre du chœur, un choreute, un marin. Et on était 3-4 à être marin, à faire partie du chœur, avec donc des partitions beaucoup plus légères, mais où, si vous voulez, on était un peu, on travaillait avec Laurent Terzieff et puis sur le plateau de l'Odéon aussi. Donc il y avait ça, et ça s'est enchaîné justement avec précisément l'intégrale des Molières, qui pour moi reste sans doute mon plus beau souvenir de théâtre au TNP, puisqu'on avait au fur et à mesure des années créé comme ça, chaque année on rajoutait un ou deux petits Molières. Je dis les petits Molières parce que Christian avait à cœur d'explorer le répertoire de Molières qui précède l'École des femmes, c'est-à-dire les 9 premières dernières pièces qui sont les pièces où on sent encore toute son influence à la fois de la comédie italienne et à la fois de la farce moyenâgeuse, et où Molière, entre cet héritage italien et moyenâgeux farcesque, essaye lui d'inventer la comédie littéraire qui l'inventera plus tard. Mais là, c'est les balbutiements, ces 9 premières pièces-là.
Les pièces courtes aussi.
Pour la plupart, assez courtes. Donc sur les 9, on en a monté 7, et en 3 ou 4 ans, 3 d'abord, puis 2 ensuite, puis 2 la saison encore d'après. Et l'année de Philoctète, justement, on a eu la chance, c'est vraiment une chance parce que c'était magnifique, de pouvoir les jouer en intégralité. Donc on faisait 14h minuit et c'était une très très belle aventure, et c'est vrai que c'était des spectacles qui nous ont beaucoup fondés en tant qu'acteurs, parce qu'on était, c'était effectivement Christian
100%
et la troupe.
Pas d'acteurs extérieurs.
Non, c'était exclusivement des acteurs de la troupe, et c'était vraiment la petite chose qu'on a faite avec Christian entre le Coriolan à la création et puis le Philoctète quand on a fini les 7. Et donc, si vous voulez, ça a toujours été un équilibre comme ça, des spectacles où on avait moins de choses à faire, mais où on était les yeux et les oreilles grandes ouvertes pour capter, pour essayer de prendre un maximum, d'être le plus contaminé possible par des animaux, comme je dis des animaux, mais dans le sens animaux mythiques, animaux poétiques. On a cité Laurent Terzieff, Vladimir Urdanov, mais je peux pas ne pas citer Roland Bertin, Nada Strancar, ou Hélène Vincent, ou Alain Rimoux. Enfin, il y en a eu plein. Pardon pour ceux que j'oublie. Mais voilà, des acteurs très lourds avec des parcours énormes. Jenny Gastaldi, je vais en avoir plein qui vont revenir, mais je ne vais pas tous les dire. Et à la fois des spectacles où tout d'un coup c'était que nous, Christian et nous, et là ils s'amusaient à travailler. On travaillait tout à fait différemment, on faisait beaucoup plus de bêtises, on se permettait peut-être sans doute plus de choses, on avait besoin de plus d'audace, Mais voilà, du coup la troupe a tenu jusque-là, clopin-clopant, grâce à cet équilibre-là. Mais on a beaucoup bénéficié des 14 ans de troupe que Christian avait fait à Reims, et où il avait vachement expérimenté qu'est-ce que c'est que... Parce que s'il n'y a pas autant de troupe, c'est quand même que les metteurs en scène, faut les occuper, quoi. Quand on a 14 acteurs et qu'on les a toute l'année, ça suppose un boulot considérable. Donc lui, il a abattu un boulot dingue, et je veux dire, il a eu des saisons à 8 premières par an, où il avait 8 spectacles dans la saison, alors certes parfois des reprises, c'était du répertoire, mais il n'en demeure pas moins que ça demande énormément de travail.
Au-delà de la moyenne nationale, qui serait de combien?
Par metteur en scène?
Mais par première,
pardon. Ouh là là, pas 8 en tout cas. Non, pas 8.
Et alors, un dernier mot peut-être pour aborder beaucoup plus en détail ensuite une saison au Congo. Un dernier mot sur vous-même, Olivier Bord. Là, c'est très bien, vous êtes d'une amabilité, vous parlez beaucoup des autres, la troupe. On aurait pu les nommer quelques-uns. J'ai quelques...
Ah bah oui, je peux même tous les nommer. Julien Tiffaine, je vais commencer par les garçons, pour être galant. Julien Tiffaine, Julien Tiffaine qui prépare actuellement la chanson de Roland, Julien Gauthier qui l'aide, Damien Gouy et Clément Morinière qui jouent le laboureur de Bohème, Jérôme Quintard, Maxime Mention qui sont en ce moment, qui jouent ce soir à Villefranche dans l'école des femmes, mis en scène par Christian avec Robin Enucci dans le cadre des Tréteaux de France. Voilà, on est partout. Okay. Clément Caravédian, Nicolas Gonzalez qui sont mes camarades dans Le Roi Lear, qui était Nicolas Gonzalez qui jouait Ruy Blas, Clément Caravédian qui est dans une saison au Congo également. Et puis alors, j'espère que j'ai oublié pas personne. Pardon les gars, si j'en oublie un, vous aurez le droit de me le faire payer. Et puis les filles, Laurie Besson qui est également aussi dans l'école des fans, Clémentine Verdier qui est en tournée, peut-être avec Maître Puntilla, j'en sais rien, qu'est-ce qu'elle fait en ce moment, Clémentine, mais en tout cas je sais qu'elle va être dans un Marivaux que Michel Raskin va venir monter avec la troupe, Yasmina Rémil qui sera avec nous sur Le Roi Lear, Juliette Rizou évidemment qui joue la Jeanne de Delteil, et je crois que j'ai...
Je vais vérifier,
c'est-à-dire combien de personnes
on doit être une douzaine, voilà.
Baptiste Guiton,
voilà, Charvin. Baptiste Guiton, évidemment, Baptiste, pardon, qui est assistant à la mise en scène, qui fait partie de la troupe avec nous, qui dirige le théâtre de l'Exalté, qui va jouer une pièce cette année au TNP, avec qui j'ai travaillé sur Par-dessus bord. Voilà. Super camarade.
Merci encore, Olivier, de nommer tout le monde. Mais moi, je n'ai pas encore posé ma question, qui se voulait peut-être plus personnelle.
Oui.
Est-ce que cela éventuellement rentre dans cette idée d'occuper ces acteurs? Vous avez participé à la mise en scène d'un spectacle. Est-ce que vous pourriez nous en dire deux mots? Et puis ensuite, un petit peu d'Aimé Césaire, un poème que Gérald nous a trouvé également. Et promis, nous parlons d'une saison au Congo. Mais la mise en scène, c'était pour ce spectacle Ruy Blas, pièce montée la saison dernière, je crois. Ou il y a deux saisons.
Oh, c'était en 2011, le 11-11-2011, puisque c'était le spectacle qui a accompagné la réouverture du TNP avec les nouveaux travaux. Et oui, effectivement, Christian m'avait proposé d'être assistant à la mise en scène, ce que j'ai accepté parce que moi j'ai toujours été passionné par ça, par la mise en scène, par les acteurs. Et du coup, j'en ai fait moi-même, j'en fais encore, je vais en faire encore. Bref, c'est quelque chose que je fais aussi à côté de mon métier d'acteur, et Christian étant tout à fait à l'écoute de ça, m'a proposé à l'occasion d'être son assistant ou de mettre en scène des petites formes. J'avais mis en scène un texte de mon camarade David Mambouche, qui lui aussi était dans la troupe à l'époque, avec la troupe, l'année de Coriolan et des Molières justement. Christian nous avait laissé le grand plateau pour qu'on y fasse un peu nos bêtises. J'avais mis en scène mes camarades. Donc c'est vrai que moi, c'est une chose que j'aime bien parce que la mise en scène, c'est aussi un endroit où on peut tout d'un coup travailler avec des collègues avec lesquels on n'a pas l'habitude de travailler. Je pense aux gens de la technique. Quand j'ai été assistant à la mise en scène, ce qui a été très sympa pour moi, ce que j'ai plus que sympa, touchant, c'était que tout d'un coup, je travaillais, que ce soit avec les habilleuses, les décorateurs, les machinistes, les gens de l'administration, tout d'un coup, j'avais un autre rapport avec eux, un rapport de travail, d'échange, et ça, je trouve ça tout à fait passionnant, même bouleversant, parce que c'est là où le théâtre prend son sens d'aventure collective, en fait. C'est quand on fait des choses tous ensemble. Et le metteur en scène, il a la chance de se retrouver au milieu et d'avoir un dialogue avec tout le monde. Et c'est ça que je trouve vraiment bien, vraiment chouette.
Nous en reparlerons dans ce troisième temps que nous proposerons, troisième temps de parole tout à l'heure, sur justement Olivier Borle, à la fois acteur et metteur en scène. C'est pour un spectacle à venir au Théâtre des Ateliers. Il y a le temps, ce sera en février prochain. Mais ce spectacle étant lié à Aimé Césaire, il nous faut maintenant arriver à une saison au Congo. Écoutons Aimé Césaire nous lire le poème Mots. Et puis ensuite, nous continuons sur Radio Canu, radiocanu.org si vous nous écoutez sur internet, ou bien Radio Canu 102.2 de la bande FM à Lyon. Et nous sommes bien dans l'émission spectaculaire.
Aimé Césaire, parmi moi, de moi-même, à moi-même, hors toute constellation, à mes mains serrées seulement le rare hoquet d'un ultime spasme délirant, vibre mot. J'aurai chance hors du labyrinthe, plus long, plus large, vibre, en onde de plus en plus serrée, en lasso où me prendre, en corde où me pendre, et comme clou toutes les flèches et le curare le plus amer, au beau poteau mitant des très fraîches étoiles. Vibre, vibre, et essence même de l'ombre, en aile, en gosier, c'est à force de périr, le mot nègre, sorti tout armé du hurlement d'une fleur vénéneuse, le mot nègre, tout poicre de parasites, le mot nègre, tout plein de brigands qui rôdent, de mères qui crient, d'enfants qui pleurent, le mot nègre, un grésillement de chair qui brûle, acre et de cornes, le mot nègre, comme le soleil qui saigne de la griffe sous le trottoir des nuages, le mot nègre, comme le dernier rire vêlé de l'innocence entre les crocs du tigre, et comme le mot soleil est un claquement de balles, et comme le mot nuit un taffetas qu'on déchire, le mot nègre, dru, savez-vous, du tonnerre d'un été que s'arroge des libertés incrédules.
Yeah.
Gérald. Toujours l'émission spectaculaire. Nous écoutions à l'instant Aimé Césaire lire un poème.
Un poème qui s'appelle Mots, qui est extrait d'un album coédité par Radio France, l'INA, France Culture. Volume 3, Les Voix de Poètes, volume 3, 23 poètes disent leurs textes. Une compilation de textes choisis entre 1950 et 1980 de 23 poètes qui disent eux-mêmes leurs textes. C'est l'intérêt de ce CD par Olivier Germain Thomas, avec la collaboration d'Olivier Collardel.
Eh bien, que de précision, tout à l'heure c'était le cas pour Indépendance Tcha-Tcha-Tcha. Et donc, cela nous permet enfin d'aborder le cœur de cette émission. Olivier Borne, nous vous recevons parce que nous vous apprécions beaucoup. Vous êtes un acteur, franchement, c'est peut-être un aveu facile, enfin, ou disons, qui pourrait sembler hypocrite ou je ne sais quoi, mais Par-dessus bord est un spectacle qui m'a vraiment marqué. Le personnage d'Olivier Dehaze, je l'avais beaucoup apprécié, cette mesure, à côté de Benoît le Flambeur, qui cherche à faire n'importe quoi et qui vend la boîte, en gros. Il était très ému par son père, d'ailleurs, je crois qu'il y avait des accusations plus ou moins de trahison. Enfin, c'était...
Il s'en sortait
mal, Olivier. C'était terrible. Oui. Et moi, j'étais vraiment ému par ce personnage. Et donc, voir apparaître un jour à Gerland m'a fait grand plaisir. Bref, nous évoquons une saison au Congo. Pièce qui recommence, qui est une reprise. La première, je crois,
Aimé Césaire.
C'était en avril dernier ou mai, je ne sais plus très bien. En tout cas, si vous avez manqué cette pièce, qui est d'ailleurs passée également à la télévision sur France O cet été, si vous l'avez manqué, elle passe au TNP à Villeurbanne du mercredi 16 octobre jusqu'au 25. Je crois que ça doit être un dimanche, il me semble, la semaine d'après. Cette pièce, Olivier Borle, vous qui jouez dedans, qui jouez deux rôles, vous jouez Basilio, qui est le roi de Belgique, on peut le dire simplement, et puis qui jouez également un flic qui participe à l'assassinat de Patrice Lumumba. Comment pourriez-vous nous présenter un peu cette pièce, peut-être de l'intérieur, puisque étant acteur, vous avez sûrement autre chose.
Une saison au Congo, c'est une des quatre pièces d'Aimé Césaire, puisqu'il a écrit beaucoup de poèmes, beaucoup d'essais, mais pas autant de théâtre, enfin pas autant, en tout cas quatre pièces qui sont très belles, très conséquentes. Et c'est un spectacle que Christian voulait monter depuis longtemps et il s'est emparé de l'occasion de l'année du centenaire de la naissance d'Aimé Césaire, qui était l'année dernière, ou cette année, peut-être je vais dire des bêtises, 2013, oui, c'est ça, cette année, pour dire, cette année, voilà, je vais monter une saison au Congo, donc on l'a créée l'année dernière avec une proportion de la troupe un peu plus légère que d'habitude, puisqu'on n'est que 4 ou 5 de la troupe, puisque évidemment l'essentiel de la distribution est noir et qu'on a on est plutôt des acteurs blancs dans la troupe. Donc du coup, nous,
c'est facile, vous jouez
les Belges.
Vous jouez les Belges.
Voilà, on joue les Belges.
Les mauvais de l'histoire.
Les Belges et les Européens, les Américains, effectivement. Et pour l'occasion, donc Christian a organisé des auditions pour rencontrer des acteurs d'origine africaine ou africain ou belge, parce qu'une partie de la distribution est belge, d'origine, la plupart étant d'origine congolaise ou pas forcément. Et donc une équipe s'est constituée de, alors là, combien on est, 30, 35 je crois.
Impressionnant.
Voilà, et on a créé ce spectacle l'année dernière. Alors un petit mot sur une saison au Congo. L'histoire relate, la pièce relate l'indépendance du Congo, en fait les mois qui suivent l'indépendance du Congo plus précisément, et comment Patrice Lumumba, qui est le leader de l'indépendance, chute, en fait, c'est grandeur et décadence de Patrice Lumumba, on peut un peu dire ça, puisque la pièce commence, Lumumba est en prison et il obtient
pas exactement, c'est un bonimenteur qui cherche à vendre la polar.
Oui, tout à fait.
Très rapidement, il est en prison, boum, c'est la scène suivante.
Non, mais c'est vrai, c'est une petite coquetterie d'Aimé Césaire qui, par cette scène du bonimenteur où on voit Patrice Lumumba qui vend de la bière au chaland, elle m'a rappelé que avant d'être le leader de l'indépendance, Patrice Lumumba était directeur commercial de La Polar, donc qui est une des deux marques de bière de l'époque. Donc la pièce raconte l'indépendance du Congo et comment, d'une certaine façon, pour être très direct, comment les Congolais ont obtenu leur indépendance politique, mais en fait, n'obtenant absolument pas l'indépendance économique, se sont retrouvés à tomber sous la coupe d'un dictateur.
Téléguidé par les puissances étrangères.
Téléguidé par les puissances étrangères, puisque maintenant, on le sait, Mobutu était le poulain des Américains, puisque tout ça est en pleine guerre froide. Et donc, il y a un enjeu économique très très lourd au Congo. Puis alors là, je vous invite à vous pencher sur la question actuelle de RDC, puisque évidemment tous les problèmes qui sont soulevés en 1960, on en a maintenant là, c'est encore actuel. Ouais, le prolongement, tout à fait, puisque la région du Kivu et l'est du Congo, enfin de RDC, est la proie d'une guerre terrible. Bon, bref, je ne vais pas rentrer.
Des incursions en plus rwandaises, angolaises, pour les ressources.
Exactement. Du sous-sol. Et du coup, tout ça montre, la pièce a ça pour cadre historique, on va dire. Mais par cette pièce, Césaire, en fait, lui, se veut en tant que poète. Inventeur du concept de la négritude en tant que poète de la décolonisation, poète de l'émancipation des races, veut être la voix poétique en fait de cette émancipation politique des années 60. Du coup, s'empare de l'histoire congolaise pour faire de Lumumba une espèce de héros de la décolonisation et d'un héros poétique qui... Voilà, donc si vous voulez, la pièce est un subtil mélange d'histoire politique, d'intrigue politique, au sens tragique et historique du terme, et d'une portée poétique fulgurante, puisqu'il fait parler Lumumba d'une manière totalement flamboyante, et c'est le geste poétique qui finalement ressort beaucoup, je trouve, de ça. Donc... Donc, si vous voulez, le travail a été assez magique, enfin, a été vraiment très très beau, parce que on s'est tous rencontrés, on savait pas trop qui étaient les uns les autres, et tout le monde, et je trouve que Christian y compris, on a tous été, mis d'accord par ces deux grandes figures que sont Patrice Lumumba et Aimé Césaire. Voilà, ce sont deux hommes vraiment fascinants. Je me suis beaucoup plongé, enfin on s'est tous beaucoup plongé dans ce contexte-là, et il n'y a pas à dire, ça reste. La mort de Lumumba, quand on l'a répété la première fois, ça a été quelque chose de fort en répétition, parce que, si vous voulez, pour les gens qui sont conscients de cette histoire, alors la plupart de la distribution, puis nous parce qu'on s'y est intéressé un peu, ça n'a pas été un moment, c'est quelque chose qui est encore très 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 vivace. Ça n'est qu'en 1960, Mobutu est mort, si je ne dis pas de bêtises, en fin du siècle, 97, ouais. C'est la chute de son régime, il doit périr dans les années. Parmi mes camarades de la distribution, certains ont fui le Congo, certains ont vécu des histoires terribles là-bas, et d'autres connaissent très bien l'histoire. Donc du coup, c'était pas un sujet comme quand on monte Coriolan, oui, ou voilà, là le Roalien, ou voilà, qui sont très loin de nous. Là c'était brûlant, voilà.
C'était brûlant. Bouleversant. Est-ce que vous aviez vu, alors le nom du réalisateur m'échappe, il y a un film qui a été fait, qui est très intéressant.
Un film de Raoul Peck.
Raoul Peck. Voilà. Est-ce que vous aviez vu ce film? Parce que j'ai vu des points communs, moi.
Ah bah oui, parce que
Mais
parce que Peck s'est beaucoup inspiré de la scène de la pièce de Césaire.
Voilà,
en fait.
Il me semblait aussi.
Il s'est servi de la pièce de Césaire. Parce qu'on en parlait tout à l'heure avec vous, Christophe. C'est vrai que ce qu'il y a aussi de très étonnant dans cette pièce, c'est qu'elle est écrite dans la foulée des événements, puisqu'elle date de 65 ou de 66, si je ne dis pas de bêtises. Et donc 5-6 ans après, Césaire n'a jamais mis les pieds au Congo. Mmh. Et il arrive à dépeindre ça avec une pertinence qui est sidérante. Et il a même une des lectures transhistoriques sur l'œuvre, par exemple sur l'assassinat de Lumumba, qui est dans la pièce assassiné par des mercenaires occidentaux. Ça, on n'en avait aucune idée à l'époque. Ça s'est su qu'après.
Essayer d'étouffer, j'imagine.
Oui, il y a eu un grand mystère, des enquêtes, etc. Et Césaire a une vision...
prémonitoire.
Et d'ailleurs la pièce emporte les stigmates, puisqu'il y a les personnages qui étaient encore vivants du temps de l'écriture de la pièce ont des noms transformés. dans la pièce. Par exemple, Kazavubu s'appelle dans la pièce Kalalubu, Mobutu s'appelle dans la pièce Mokutu. Mmh. Et voilà, il y a des tas de noms qui sont changés.
Basilio, peut-être.
Basilio, voilà, que j'interprète.
Baudouin, c'est ça ?
Qui était Baudouin, le roi Baudouin, oui, bien sûr, qui s'appelle Basilio dans la pièce, parce que Césaire a changé tous les noms des gens qui étaient encore vivants à l'époque. Mmh. Donc, voilà, alors pour bien faire, peut-être maintenant, il faudrait rétablir les vrais noms, mmh. mais en tout cas, bon, nous, on ne l'a pas fait. Mais...
En tout cas, un travail que fait Christian Scaretti, il a peut-être parlé donc de cette mise en scène plus précisément, c'est j'ai relu le texte, enfin, j'ai lu le texte ces jours-ci, mais j'ai revu la pièce qui était passée sur Franceau. Et ce travail qu'il fait, qui est très intéressant, ce sont les passages où les acteurs, pendant quoi 4-5 secondes, arrêtent leur rôle pour dire, je pense à Patrice Lumumba qui dit nous sommes à tel endroit à tel moment, ou bien à Mars Cold qui meurt. Je crois que là, c'est pour le coup, c'est écrit, ça apparaissait quelque part, ou bien encore un autre passage, je ne sais plus à quel moment. On a des sortes d'indications pour éclaircissement qui est apporté, complément d'information au public qui parfois ne connaît pas très bien.
Il faut creuser la question, ça donne envie justement de s'intéresser, et j'ai beaucoup apprécié la diversité des langages. Il y a tout un passage sur la diversité des langues, en fait, beaucoup de traductions et des sous-titres. Et on voyage aussi dans la langue,
y compris dans le
poétique et la variété des langues.
Vous avez un accent belge vous-même.
Oui, voilà. Alors, c'est très fort. En ce qui concerne les accents, c'est vrai que ça, on a eu un gros travail là-dessus qui nous a tous beaucoup amusés, beaucoup rendus humbles les uns les autres, puisque des Français ont essayé de prendre l'accent belge, des Belges ont essayé de prendre l'accent congolais, des Congolais ont essayé de perdre l'accent, de prendre l'accent français. Enfin, bref, ça a été un méli-mélo général, et on a tous travaillé. Donc moi, je prenais l'accent belge, mais je faisais travailler un pote belge qui lui devait prendre l'accent africain, l'accent congolais, etc. Et en ce qui concerne les petites incursions en public, alors ça a une double ou triple origine, ou une double origine. La première, un peu sérieuse, sérieuse, c'est que Césaire écrit sa pièce sur un modèle brechtien, un peu didactique. Il est dans un théâtre qui se veut émancipateur politique du spectateur. Donc du coup, il y a un besoin quand même d'éclaircir par moment les choses. C'est pas un théâtre c'est pas un théâtre de l'obscurité, même si évidemment ça frotte avec l'aspiration poétique de Césaire qui est plus hermétique évidemment puisqu'elle est poétique, mais il y avait un besoin d'éclaircir les choses. Et puis la deuxième raison, c'est un peu une réponse en pied de nez au discours de Dakar où notre ancien président avait courageusement dit aux Africains qu'ils n'étaient pas encore entrés dans l'histoire.
Oui, et le discours de Guénot, oui.
Voilà. Et exactement. Et du coup, en fait, ça nous apparaissait pas mal de renvoyer au spectacle qu'en fait cette histoire-là, on la connaissait pas. C'est pas tellement que les Africains n'étaient pas rentrés dans l'histoire, c'est plutôt que les Occidentaux, en tout cas nous Français, n'avions pas pris vraiment le temps de s'intéresser à cette histoire. Donc du coup, c'est un peu un clin d'œil qui se veut, un peu insolent pour dire, de toute façon, il y a plein de choses qu'on connaît très très mal. Voilà.
Beaucoup de force dans cette pièce, on retrouve peut-être le souffle de Coriolan par-dessus bord, beaucoup de mouvements, très peu de décors, on l'avait indiqué en tout début d'émission quand on parlait de C'est beau, c'est cette idée de Christian Scaretti, l'argent est davantage à mettre dans les personnes, dans les hommes que dans les objets, les bibelots ou les tables ou je ne sais quoi. Je pense aux coups de feu par exemple qui sont portés à la fin, ce sont des pistolets je suppose en plastique et c'est un coup de bâton sur le sol, bing, qui mime le bruit de ce coup de feu. Très peu de choses, des tables, des chaises et puis, si le bonumenteur, c'est quand même une machine.
Il est appareillé avec un petit micro. Ouais.
Et alors, donc, entrons davantage peut-être dans ce rôle. Vous, enfin, petit rôle, peut-on les qualifier avec un S de rôle. Il y a Baudouin d'un côté et puis le garde de l'autre. Partition pas trop exigeante, c'est ça. Enfin, je sais pas comment qualifier. Peut-être que je suis très maladroit en disant ça, mais disons. Enfin, c'est.
Non, mais c'est un peu toujours pareil. On se dit.
On dépend des autres aussi.
Ouais, non. Puis moi, on se disait. Là, c'est bon. J'ai un petit rôle comme ça. Je vais pouvoir
seul sur scène, quand même.
Me reposer un peu. Et puis en fait, non. En fait, on se passionne pour la chose. Et puis on est tout le temps sur scène. Et puis on est complètement happé. Donc, mais évidemment, par contre, oui, c'est sûr que la partition est moins lourde. Par exemple, que celle écrasante de Lumumba que porte mon camarade Marc Zinga. Qui est une partition très très lourde,
complexe,
très très belle, complexe, et puis qui
flamboyante,
qui sort admirablement bien. Et voilà. Et je tiens à préciser quand même que je joue aussi le rôle de Croulard, qui est un petit fonctionnaire belge, qui est resté aux côtés de Lumumba, parce que Césaire montre par ce tout petit personnage que certains fonctionnaires belges du temps de l'époque coloniale sont restés et ont accompagné Lumumba dans son combat. Il y en a même un qu'on peut retrouver parfois sur internet qui dit qu'il a enjoint Lumumba à faire son discours, un belge, un vieux belge qui lui était aux côtés de Lumumba. Il y avait quand même des... J'aime bien ce personnage parce que c'est le petit blanc perdu au milieu de tous les ministres noirs. Et...
Ah oui, qui est toujours avec lui, qui l'a
fait. Ouais, voilà. Ouais. Voilà. Et pour autant, bon, c'est un détail. Oui, c'est un détail. Mais c'est bien parce que ça montrait qu'on met pas non plus tous les Belges dans le même sac. Non.
Je ne veux nullement minimiser la participation d'Olivier Borle au spectacle, puisque nous nous sommes dit hors antenne que vous avez lu cette somme de David Van Reybrouck qui a été publiée assez récemment, et on peut dire en schématisant qu'il reprend la pièce plus ou moins, c'est ça?
Ah bah oui, il va même au-delà, parce que Van Reybrouck, il fait l'histoire du Congo, il part de la préhistoire à de nos jours. Alors évidemment, il y a un énorme chapitre sur l'indépendance. Mais ouais, c'est un bouquin, voilà, pareil, je m'étais dit, oh bah cool, je vais jouer un petit rôle dans une saison Congo, comme ça j'aurai du temps pour faire d'autres choses. Et puis, ah tiens, ça serait bien de lire ça, puis voilà, puis on lit ça, puis ça fait 800 pages, allez, on s'y plonge, et en fait,
et c'est la somme.
Non, mais comme je vous disais aussi, comme on allait se retrouver face à des acteurs pour qui l'histoire est beaucoup plus vivace, qui connaissent bien cette histoire-là, moi j'avais vraiment... crainte de me retrouver trop en défaut de connaissances sur cette histoire. Je voulais pas complètement débarquer. Et il s'avère que
ça se serait senti peut-être aussi dans la...
J'en sais rien.
L'accent belge était bien fait. Hein. Je sais pas combien de répétitions, combien d'heures et de temps ça a pu demander.
La connaissance, le travail de lecture qui...
En tout cas, c'est aussi ça qui est intéressant. C'est-à-dire, c'est aussi là où ce métier devient un enrichissement personnel, culturel, c'est-à-dire que je traverse pas simplement le truc de 8h à 19h, c'est-à-dire que le soir je lis aussi des choses là-dessus, et c'est ce qui nous rend riches, quoi, dans nos rapports après humains, et voilà, même une posture un peu philosophique, on va dire, mais bon, tout simplement, oui, politique, et puis tout simplement, c'était plus marrant, quoi.
En tout cas, il y a une énergie qui émane de ce spectacle, qui est folle, moi j'invite vraiment les auditeurs à y aller.
Sans entracte.
Et la manière dont une seule pièce, justement, qui fait la place belle à 35 acteurs sur scène en permanence, quasiment, comment ils arrivent à transformer un maquis africain avec. Je précise que la musique est faite en direct avec des vrais musiciens, c'est très très bien, c'est un des points forts aussi, je trouve, du spectacle. Et ils arrivent à transformer avec très très peu de choses, très peu de manipulation d'accessoires, ça en siège de l'ONU, ou en lieu politique très froid, où se prennent les grandes décisions, les instances politiques, c'est ça, c'est très fort, j'ai trouvé.
Bah ouais, c'est un spectacle en tout cas qu'on a eu
un
plaisir infini à créer, parce que il nous a appartenu vraiment, on se l'est créé comme un objet dont on était très fiers, et je suis encore, et on est tous très 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 fiers à chaque fois de le jouer, de le dire, regardez ce qu'on a fait, regardez les spectateurs, on vous a concocté ça, et ça c'est chouette quand on a, c'est pas toujours aussi fort, et là ça l'est vraiment. Et du coup j'en profite pour dire aussi qu'après notre exploitation au TNP là de 10 jours, on a la chance de partir le jouer à Fort-de-France là, fin octobre, pendant 3 ou 4 dates, avant de le jouer un mois à Paris au Théâtre des Gémeaux, à Sceaux plus précisément.
Ça c'est bien aussi que ce spectacle soit repris, qu'il se parte également en tournée. Sinon, un spectacle qui ne dure qu'un temps, c'est un...
Non, et puis quand même, c'est l'année Césaire. Bon, il n'y a quand même pas eu...
Il y a eu quelques manifestations.
Il y a eu quelques. Enfin voilà, on est content quand même de reprendre ça.
Nous pourrions en parler. Je pense des heures. Gérald, ce que nous allons faire, c'est diffuser un petit peu de la pièce. Vas-y. On va passer un petit peu de pièce parce que j'ai pu trouver sur internet. Il y a des vidéos qui sont disponibles, donc on va en écouter 2 minutes. Et puis je vois que déjà le blues des canuts de Pascal est en train presque de prendre place. Alors écoutons un petit peu. Je crois que c'est une vidéo qui est faite avec différents extraits. Ça doit durer 2 minutes, j'espère, parce qu'il nous reste encore éventuellement à évoquer Chéreau. Moi, j'aime bien parler d'histoire de la troupe. Eh bien, Chéreau a appartenu quand même au mur du TNP de 72 à 82. Il nous reste surtout à parler de ce cahier d'un retour au pays natal qui sera joué par Olivier Borle, ainsi que mise en scène au Théâtre des Ateliers. Ce sera au mois de février. Je retrouve les dates et nous écoutons donc quelques quelques extraits de cette pièce, Une saison au Congo, reprise la semaine prochaine du mercredi 16 octobre jusqu'au 25. Ceci se trouve sur le site du TNP.
J'ai vu bien des prisonniers, mes paroles et des geôliers. Hein? Rien de plus emmerdant que ce nègre à monocle.
Ce qu'il y a de sûr et de certain, c'est que parmi les bons, il y a la bière. Vivez! Vivez donc! D'ailleurs, n'est-ce pas la seule liberté qu'il nous laisse?
Et d'une prétention, même que maintenant, il fait des vers. Oh.
Macaque poète.
On ne peut pas se réunir sans que ça se termine en prison. Meeting, prison. Écrire, prison. Prison. Quitter le pays.
Prison. Tiens, attends, je vais faire de la poésie sur tes comptes.
À la demande de Lumumba, le gouvernement belge a accepté de fixer au 30 juin 1960 l'indépendance du Congo. C'est foutu. Un gouvernement de traîtres nous brade notre empire.
Vive Lumumba! Vive Lumumba!
Hourra! Hourra! Vive l'indépendance!
Indépendance, tcha-tcha, t'as oublié.
Il paraît que je suis exigeant. Et puis aventureux, casse-cou, que sais-je. Oui, c'est ça. Il paraît que je vais aller trop vite. Eh bien, bande de limaçons, oui, il faut aller vite, il faut aller trop vite. Savez-vous combien j'ai de temps pour remonter 50 ans d'histoire? 3 mois, monsieur. Et vous croyez que j'ai le temps de ne pas aller trop vite?
Je souhaite, quoi qu'il arrive, que vous n'ayez pas à payer un jour trop cher le prix de votre imprudence et de votre impulsivité. Adieu.
Nous écoutions un extrait, des extraits de cette pièce, Une saison au Congo, reprise la semaine prochaine au Théâtre National Populaire, au TNP, du 16 octobre jusqu'au 25. J'ai toujours pas trouvé quelle date était le 25. Mais parlons, projetons-nous beaucoup plus loin dans l'émission spectaculaire sur Radio Canu, radiocanu.org, si vous nous écoutez sur Internet, ou bien Radio Canu 102.2 de la bande FM à Lyon. Replongeons-nous, plutôt, enfin disons même plongeons-nous avec Olivier Borne, notre invité, beaucoup plus loin que le mois d'octobre. Allons, dépassons novembre, dépassons décembre également pour courir. Toujours en compagnie d'Aimé Césaire, pour nous rendre du 18 au 28 février au Théâtre des Ateliers. On quitte Villeurbanne pour aller dans, c'est le 2e arrondissement, je crois, à Lyon.
Oui.
Il y a une pièce, enfin pièce, comment appeler cela? Il y aura un texte qui sera mis en scène, cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire, mise en scène et jeu. Olivier Borle, le voici, il est avec nous depuis le début de l'émission. Est-ce qu'il vous reste-t-il encore un peu de salive pour nous dire quelques mots de ce spectacle dont André Breton dit, je lis la brochure de la présentation du Théâtre des Ateliers, tout simplement, le plus grand monument lyrique de notre temps?
Ah bah oui, quelques mots. Gilles Chavassieux, directeur du Théâtre des Ateliers, m'a convié il y a quelques mois à venir participer à la saison 13-14 des Ateliers, et j'y ai répondu avec grand plaisir, puisque comme je le disais tout à l'heure, moi j'aime bien faire de la mise en scène, et quand il s'agit de savoir qu'est-ce qu'il fallait monter, bah j'étais justement dans toutes ces histoires d'Aimé Césaire, du Congo et de la poésie et de la négritude, et donc du coup je travaillais beaucoup sur le cahier d'un retour au pays natal, qui est un peu le texte fondateur, qui est le premier poème d'Aimé Césaire, qui est son texte fondateur et qui va inspirer des générations de poètes. Et je me suis dit, allons-y, faisons ça, faisons le cahier d'un retour au pays natal, parce que c'est le genre de vague que tout surfeur a envie de faire, et c'est un texte absolument sublime, donc je travaille dessus en ce moment et je vais le jouer effectivement aux ateliers du 18 au 28 février prochain.
Donné tous les jours à 20h30 sauf les samedis à 19h, ce texte, est-ce que vous le connaissez déjà? Je l'ai sous les yeux. Par quoi est-ce que ça commence, Olivier Borle? Je vous somme de nous indiquer le tout début.
Ça commence par Au bout du petit matin.
Ah, exact.
Va-t'en, lui disais-je.
Oh, très très bien, le texte est déjà su. On parlait de ça tout à l'heure, Gérald, le rôle, c'est ça, enfin il me semble que c'était votre question, le acteur, est-ce seulement apprendre un texte ou est-ce qu'il a davantage? Déjà, là, apprendre un texte, ça fait quand même 60 pages. Donc
oui,
c'est,
et puis d'une complexité, c'est quand même costaud. Terrifiante.
Et là,
faut
pour
dictionnaire
le coup,
pour pas mal de mots.
Au début,
il y a un
prose,
dictionnaire
manierisme baroque de Césaire, ça.
Oui, il y a un lexique du Cahier voilà. de retour au pays natal qui est édité. Voilà, puisque voilà, Césaire s'est amusé dans sa poésie à utiliser des mots qui venaient de partout. Il était d'une culture phénoménale. Et donc il y a même des mots, le dernier hein, d'ailleurs, Vérition, qui est le dernier mot du cahier, a donné lieu à des années et des années d'interprétation et de lutte entre les spécialistes, et il semblerait finalement que ce soit un terme de physiologie qu'il a trouvé dans un manuel qu'on ne trouve que dans un seul ouvrage.
Ouais. Dernière ligne de ce qu'est d'un retour au pays natal, c'est là que je veux pêcher maintenant, la langue maléfique de la nuit, en son immobile
Vérition.
Bon, je crois que ce que nous pourrions faire, c'est en reparler. On se revoit en janvier-février pour en
reparler. On en reparlera. Après Saint-Gore, la semaine dernière, c'était plus Césaire aujourd'hui.
Avec un immense
plaisir. Dans des thématiques,
ce serait une bonne idée.
Il y a des fils qui se reconduisent d'émission en émission.
30 secondes d'Africa et puis ensuite des brèves, Gérald, pour terminer cette émission.
Peu de brèves, mais justement, à propos de fils qui se reconduisent. Je vous rappelle qu'à Saint-Étienne, le 8 novembre, aura lieu un concert pour les amateurs de reggae de 3 Le Phil Saint-Étienne, DJ Little Big Man, Kamana Bamboul, Peter Solo, et on aura aussi Asso Babilas et les Kini Kini Wewe, qui après un album de la mort des justes qui a eu beaucoup de succès, a sorti un album qui s'appelle Taximan au mois de mai dans les bacs et qui jouera le 8 novembre. On peut peut-être écouter un court extrait.
C'est ce que je suis en train de faire, et même d'ailleurs pendant qu'on écoute
de démocratie.
Je pense qu'on va dire au revoir à Olivier Borle. Merci beaucoup.
Merci
d'avoir été présent pour nous parler d'une saison au Congo. Vous trouverez tous les renseignements, auditeurs, sur le blog de Spectaculaire, blog.radiocanu.org/spectaculaire. Quelques secondes d'Africa et puis Gérald prend la parole pour nous annoncer pour c'est Africa, non, c'est ça le titre de cette chanson?
Non, démocratie.
C'était la deuxième, c'est démocratie celle-ci. On écoute quelques secondes et puis ensuite des brèves de Gérald et puis blues des canus tout à l'heure. Alors si, c'est grave, on passe juste un peu avant Gérald, hein, c'est ça?
La démocratie, ça serait mieux, hein, la 6 pour enchaîner avec le thème de l'émission.
Au revoir Olivier Borle.
Au revoir.
Explication de texte, Gérald. Fin de l'émission spectaculaire, nous écoutons Démocratie de
Asso Babilas, qui jouera au Phil à Saint-Étienne le 8 novembre.
D'autres brèves encore pour terminer l'émission spectaculaire.
Alors, juste une petite BD, en fait, dont je voulais parler d'un auteur qui est passionnant, qui s'appelle Marc-Antoine Mathieu, dont j'ai trouvé le dernier album qui vient de sortir chez Delcourt de 2013, qui est très curieux, parce que, comme d'habitude, les expérimentations de Marc-Antoine Mathieu sont infinis. Il appartient à ce courant expérimental de la bande dessinée qui s'appelle, à la manière de l'Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle, l'ouvroir de bande dessinée potentielle, l'Oubapo.
L'Oubapo, hein, je
Donc il est, il a publié beaucoup d'albums qui sont tous vraiment un bonheur de lecture, passionnant. On trouve par exemple dans celui-là, mais je ne sais pas si je vous le dis parce que c'est une surprise assez étonnante, des pages déchirées, mais tout a un sens. Ce sont des spéculations sur les conditions de possibilité de la BD, de l'exploration des limites d'un récit qui combine à la fois texte et images. Bon, c'est un régal à tous les niveaux. Ça s'appelle Le Décalage, et effectivement, vous serez surpris par la présentation de la BD puisqu'elle ne commence pas comme les autres au début. La couverture n'est pas à sa place. Voilà, donc c'est un peu surprenant. 2013 chez Delcourt, Marc-Antoine Mathieu, avec son héros génial qui s'appelle Julius Corentin Hackefack, prisonnier des rêves. Dans cette série, c'est le cinquième ou le sixième album.
Est-il prévu qu'il passe à Lyon, ce Marc-Antoine Mathieu?
Je ne sais pas du tout. Non. En tout cas, j'ai trouvé ça dans une très bonne bouquinerie que je vous conseille, ce qui s'appelle Le Père Pénard, à côté du Pont Bonaparte à Lyon. On trouve des BD neuves, pas chères, à prix réduit, et tout un tas de poches qu'on a envie de lire à 2 euros.
Une autre annonce, mais une expo terminée, je crois, Gérald.
Alors, une expo terminée, c'est pas très intéressant. Peut-être un film, alors ? Bon, il y avait l'expo Mariette à l'œil écoute, qui fait tout le temps dans cette galerie, ceux qui connaissent les quais de Saône en sous-sol. Une artiste, dans le cadre de la Biennale Hors les Normes, une artiste très singulière qui s'appelle Mariette, qui montrait un travail assez singulier. Je ne sais pas trop comment le décrire à l'antenne, c'est difficile. Malheureusement, j'ai regardé que l'expo c'est fini le 7 octobre. Mais si ça vous intéresse, vous tapez Mariette sur Internet et vous trouverez plein de renseignements sur cet artiste.
Et une autre expo, alors autre chose ?
Pas une autre expo, mais la Biennale Hors les Normes, donc, c'est terminé. Il y avait des choses très intéressantes à voir à l'Université Lumière Lyon 2, à la MAPRA. Et l'événement n'est pas fini, il y a un peintre qui viendra le 26 octobre au Fort de Vaise, un peintre conteur nîmois qui s'appelle Gérard Latier. Et je vous invite vraiment à aller au vernissage, à aller voir cette exposition, c'est un artiste très intéressant, passionnant et tout à fait singulier. Et peut-être pour finir, on fera peut-être une émission spéciale Art Plastique Galerie Expo la semaine prochaine, je ne suis pas encore allé à la Biennale officielle.
Le 16 octobre,
oui. Entre temps, brusquement et ensuite.
Oui, c'est ça.
Il y a le Festival Lumière, alors peut-être juste un film pour les
amateurs.
Lundi
14, c'est le départ.
Le mercredi 16.
Cette cinquième édition.
Il y a Une femme douce de Bresson qui passe, et ça je vous conseille d'y aller à 1h30. Prenez le programme, hein, il y a plein de choses qui passent partout, entre le 14 et le 20 octobre 2013.
Je crois que nous avons fait le tour Loujopo. On peut encore s'y rendre, Gérald, ou ça n'est plus pertinent?
On peut toujours aller au Loujopo, mais je crois qu'on fera une émission spéciale là-dessus avec quelques invités, galeristes, artistes.
Quelle est l'adresse
peut-être la semaine prochaine
de cette galerie?
C'est rue de la Vieillebère.
C'est pas très loin d'ici, c'est ça?
C'est entre 6e et Villeurbanne.
Ah non, oula, d'accord.
En face de l'hôpital des Charmettes.
D'accord.
Métro Charpenne.
Je confonds avec la
décentré, mais facile d'accès.
La rue Burdeau, c'est ça. Elle est pas très loin d'ici, la rue Burdeau.
Ouais, la rue Burdeau, c'est autre chose. Il y a d'autres galeries.
Il y a d'autres galeries, c'est ça.
Il y a plein de galeries dans le quartier, sur les pentes. Allez voir en ce moment, hein, AMR. Il y en a plein.
Gérald, et tout le monde l'aura reconnu, c'est notre générique de fin. Massive Attack, un gros collectif de Bristol. Gérald a tout à fait dit ce qu'il fallait. Au revoir la semaine prochaine. Restez à l'écoute des programmes de Radio Canu. Tout de suite, le blues des Canus avec des invités. J'aperçois une guitare là-bas, différentes choses. Pascal, je lui cède la parole. Écoutons quelques instants les bandes continues de Radio Canu sur le .org si vous êtes sur Internet ou le 102.2 de la bande FM Lyon. À Lyon, nous nous retrouvons mercredi 16 octobre prochain. Portez-vous bien et à très bientôt.